Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, 10 Congolais sont morts dimanche à Khartoum à la suite des bombardements par l'armée soudanaise sur les campus de l'Université internationale d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères exige au nom du gouvernement les éclaircissements sur les motivations à la base de ce drame. En Ituri, 18 personnes ont été tuées en l'espace de moins d'une semaine par des rebelles des ADF dans plusieurs villages dans les territoires d'Irumu. Face aux multiples attaques des groupes armés, les casques bleus de la MONUSCO ont établi une base temporaire à Loya pour protéger la population. L'invité de ce journal est la directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral. Nathalie Kambala parle de plusieurs boîtes à plaintes placées dans les lieux publics à Kananga, au Kasaï central, pour dénoncer des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 10 Congolais sont morts dimanche dernier à Khartoum à la suite des bombardements par l'armée soudanaise sur le campus de l'Université internationale d'Afrique. D'autres compatriotes grièvement blessés sont admis à l'hôpital militaire de la capitale soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères qui a reçu hier lundi à son cabinet le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa a exigé au nom de son gouvernement des éclaircissements sur les motivations à la base de ce drame. On écoute Christophe Lutundula au micro de Jocelyne Moussaou.
Nous avons demandé au chargé d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient inhumés dans la dignité conformément aux traditions aux côtés de leur famille. Par ailleurs, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, à tous les Congolais habitant le Soudan, de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba, de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions sur instruction du Premier ministre. J'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots.
Notez que le conflit armé au Soudan a débuté en avril dernier entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. Des affrontements ont éclaté dans tout le pays, principalement dans la capitale Khartoum et dans le Darfour. Ici au pays, en Ituri, pendant ce temps, 18 personnes ont été tuées en l'espace de moins d'une semaine par des rebelles des ADF dans plusieurs villages dans les territoires d'Irumu. Face aux multiples attaques des groupes armés, les casques bleus de la MONUSCO ont établi une base temporaire à Loya pour protéger la population, affirme des sources de la mission onusienne. Des patrouilles mixtes, FARDC et forces de la MONUSCO sont intensifiées dans la région pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Des détails avec Isaac Remuyopi.
Un groupe de rebelles des ADF a attaqué le samedi les villages de Mutuyei, Bekembele et Boulessi à une dizaine de kilomètres de Komanda. 8 personnes ont été abattues et d'autres enlevées par ces hommes armés, précise l'ONG CRDH. Les dimanches, ces inciviques ont également envahi la localité de Mutuyei dans la même entité territoriale. 8 corps des agriculteurs ont été découverts après le retrait de ces milliers, ajoute la même source. Des autres civils ont été tués par ces ADF le week-end dans les villages de Makanga, dans les territoires de Mambasa. Ces inciviques ont également pillé plusieurs biens de la population. Pour stopper les exactions de ces groupes armés, les forces de la MONUSCO ont installé depuis lundi leur base temporaire à Loya, à 16 km de Komanda. Selon la mission onusienne, ces déploiements s'inscrivent dans le cadre des plans de réponse de la MONUSCO pour atténuer la menace des rebelles des ADF. Une autre équipe conjointe FARDC Brigade d'intervention rapide de la MONUSCO s'est déployée à Samboko pour assurer la protection des civils. Ces dispositions ont permis de réduire les violences dans ces milieux où une accalmie s'observe. Serve affirmé des sources locales. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, dans les hauts plateaux, le tribunal militaire des garnisons d'Uvira, siégeant en matière pénale au premier degré à Minembwe, a rendu hier lundi les jugements dans le procès de 7 soldats des FARDC poursuivis pour différentes infractions. Les audiences foraines qualifiées de pédagogiques ont été organisées depuis le 30 mai dernier dans la commune rurale de Minembwe avec le soutien de la MONUSCO à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Des détails avec Fiston Goma.
Les soldats de première classe Kabui Kambaya Michel de la 12e brigade de réaction rapide, poursuivi pour meurtre et extorsion, a été condamné à la peine à perpétuité et d'une amende de 200 000 francs congolais pour l'indemnisation en faveur de la partie civile. Les soldats de première classe Ngoi Malembe Kaparisien de la même unité de FRDC basée à Minembwe, poursuivi pour meurtre et mutilation des cadavres humains, a été condamné à perpétuité avec une amende de 350 000 francs congolais pour frais de justice. Les soldats de première classe Kakule Kasai Eric, d'action et de reconnaissance, poursuivi pour meurtre, a été condamné à perpétuité avec une amende de 350 000 francs congolais pour frais de justice ainsi qu'une indemnisation de 10 000 dollars américains en faveur de la partie civile. D'autres soldats, dont Mazuba Mazo Janvier ainsi que Banza Kichabula, ont écopé chacun 20 ans de servitude pénale avec 350 000 francs congolais comme amende. Le tribunal militaire a acquitté Ngoi Wakyungu pour manque de preuves pour extorsion. Le commandant de la 12e brigade de réaction rapide, le général de brigade André Eonza Uketi basé à Minembwe, a souligné par ailleurs que ces audiences foraines visent à lutter contre l'impunité au sein des unités combattantes des FRDC déployées dans la région. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, exposition le week-end dernier des œuvres d'art à la prison de Muzenze à Goma. La production de ces ouvrages artistiques sont les résultats d'un projet implémenté en faveur de plus de 3000 détenus de la prison Muzenze par l'ONG Médecins Sans Frontières, MCF Hollande. Ce projet a abouti à l'ouverture d'une maison d'exposition et de vente des œuvres d'art à la prison de Goma dans le cadre des activités de soutien socio-économique au bénéfice des détenus. Reportage Gabriel Ouaménia.
C'est sur le mur d'une des cellules du quartier des femmes et de la prison où ces œuvres d'art ont été exposées en présence des invités parmi les responsables de l'ONG MSF Hollande. Dans la salle archicomble, on pouvait voir des perles, des colliers, des symboles de justice comme les glaives, des statuettes ou des bustes des illustres personnages ainsi que des portraits symbolisant des sites historiques de la RDC. Ces prisonniers condamnés à perpétuité justifient ici son choix de concevoir les glaives symboles de la justice.
C'était graphique, je me souviens quand j'étais condamné et il y a eu cette balance de justice. Je me suis rendu compte que j'étais condamné pour mes fautes. Je dois m'interpeller pour que je ne reçois pas cette balance, mais condamné.
Pour Madame Habimana, condamnée elle aussi à 20 ans pour homicide volontaire, cette activité manuelle est un sali et un bénéfice qui vient soulager ses angoisses dans sa vie carcérale. On restait ici sans occupation. Des îles piquées et des crise de hypertension, de dépression et on nous a prêté la confession des tapis, des mouchoirs, des gants à sac et cela nous occupe. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Justice, le dossier de Fortuna Biselele reste introuvable au greffe. Ce mardi 6 juin, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe devait tenir une audience de plaidoirie de la défense de l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Ses avocats étaient appelés à prouver les accusations de suspicion légitime contre les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe qu'ils les récusent. Et la cour devait statuer sur une décision de renvoi ou non de l'affaire devant une autre juridiction. Audience renvoyée à plus tard en attendant de retrouver la requête relative à cette récusation au greffe de la cour. C'est depuis le 30 mars que Biselele est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État pour être en intelligence présumée avec le Rwanda, désigné comme pays agresseur de la RDC. Sud Kivu encore, les services étatiques en charge des questions humanitaires et des gestions de catastrophes poursuivent l'identification des victimes de l'incendie qui a décimé complètement l'avenue Kanzaïr dans la commune de Kadutu à Bukavu la nuit du 3 au 4 juin 2023. Les besoins sont énormes d'après le chef de bureau chargé des catastrophes à la division provinciale des affaires humanitaires. Bonane Wilonja fait partie de l'équipe d'identification en collaboration avec les cadres de base du quartier Nkafu, la société civile communale et les confessions religieuses. Ce cadre de services étatiques énumère les besoins fondamentaux qui nécessitent une réponse rapide. Bonane Wilonja est au micro de Jean Kassami.
On a besoin des toilettes pour ceux qui sont cantonnés ici à la coordination. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'énergie aussi comme courant. On a aussi besoin des extensiles de la maison, on a besoin de nourriture. On a besoin de bâches, de couvertures, même les moustiquaires. Parmi les sinistrés, il y a des femmes enceintes. Si ces mamans parviennent à accoucher aujourd'hui, comment ces femmes seront prises en charge? C'est encore une difficulté. Quand ils vont tomber malades, qui va s'en occuper au moment où ils sont dépourvus de l'argent? Les enfants perdus, les objets scolaires. On a dénombré 1200 et 12 ménages. Parmi ces 1212 ménages, il y a 663 locataires et 449 propriétaires. C'est encore un bilan provisoire parce que les travaux continuent. Quand on est en train de passer pour faire l'identification, il y a certaines parcelles qu'on n'a pas pu retrouver les responsables. Ils ont été émotionnés et à ce moment-là, ils ont pris d'abord les larges pour abriter leur famille et ils peuvent encore revenir dans 2 ou 3 jours.
Dans la province du Maniema, une femme d'une trentaine d'années a donné naissance à des quadruplés dans le secteur de Maringa, localité de Kamumba, en territoire de Kasongo. Les parents appellent à l'assistance pour la prise en charge de ces 4 fillettes. La première personne à répondre à cet appel est Olive Lembe Kabila. Le week-end dernier, son équipe de Ipolk Maniema est arrivée à Kipaka pour remettre à la famille une assistance constituée de vivres et non-vivres, ainsi qu'une enveloppe pour la prise en charge de ses enfants jusqu'à l'âge de sevrage. Des détails avec Florence Kizalunga.
C'était le 22 mai que Madame Memeta Aimé a mis au monde au centre de santé de référence d'Ekipaka 4 fillettes. S'apprêtant à recevoir un enfant comme dans ses 6 autres accouchements précédents, cette dernière a reçu 4 fillettes à la fois. Dépourvue, l'assistance de Olive Lembe tombe à pic. La bénéficiaire témoigne. Je suis vraiment dans la joie. Je reçois beaucoup de choses de la part de Maman Olive. Que Dieu la bénisse et la protège. Je dis merci. Son mari, Sef Kikwele, dit n'avoir pas assez de moyens pour bien élever ses enfants. Je remercie Dieu parce qu'il m'a accordé ses 4 enfants. Je dis merci à Maman Olive pour sa bonne volonté d'aider le vulnérable. Je tends mes mains aux personnes de bonne volonté afin de m'assister. La charge des 4 enfants, je ne saurais pas. Le coordonnateur de Ipolke Maniema qui a remis cette assistance de Olive Lembe appelle les autres à emboîter les pas. Ouseni Pungu.
Nous avions trouvé 4 enfants sur le lit et nous avions directement apporté notre paix d'assistance. Mais ce que vous pouvez retenir, il y a beaucoup à faire pour cette famille. Frères et sœurs, prière de venir au secours auprès de cette famille.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Lancement hier lundi à l'ISP Mbandaka de l'école doctorale en didactique des disciplines pour les poules Grand Équateur. La cérémonie a été présidée au nom du ministre de l'ESU par le président du conseil d'administration des ISP. Ce troisième cycle est la matérialisation du partenariat signé entre l'école doctorale de l'ISP Bukavu. C'est en vue d'accroître le nombre d'enseignants qualifiés en didactique des disciplines. Une correspondance de Paul Richard Malengela.
La nouvelle école doctorale de Mbandaka, selon le président du conseil d'administration des ISP, a plusieurs avantages pour le Grand Équateur, notamment l'augmentation du nombre d'enseignants qualifiés, dont l'effectif actuel est inférieur à 50 dans la région, ce qui par conséquent va améliorer la qualité de l'enseignement supérieur actuellement en baisse. D'autres objectifs, a ajouté le professeur ordinaire Bourra Kajetan Maurice, c'est le rapprochement des apprenants de la formation du troisième cycle, ainsi que le rayonnement de cette formation au sein des ISP du Grand Équateur. Pour y arriver et grâce aux instructions du ministre de l'ESU Muhindu Zangi, l'ISP Mbandaka a signé un partenariat avec l'ISP Bukavu. Ce dernier établissement étant jusque-là le seul ISP admis à organiser l'école doctorale en didactique de discipline et à en délivrer le diplôme d'études approfondies DEA. Donc c'est de là que viendront les professeurs qui vont animer les enseignements. Et l'école doctorale de l'ISP Mbandaka poursuit encore l'inscription des candidats. Les chefs de travaux et surtout les assistants en fonction sont tous tenus de suivre la formation dans leur filière, car l'obtention du DEA devient la condition sine qua non d'avoir la promotion au grade de chef de travaux, a souligné le professeur ordinaire Bourra. Bandaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
3 intellectuels sénégalais de renom ont imputé les récents accès de violence dans le pays à la dérive autoritaire du président Macky Sall et au projet qu'il lui prête de briguer un troisième mandat en 2024. La situation que vit actuellement notre pays résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall, disent Mohamed Mougar Sarr, Felouine Sarr et Boubacar Boris Diop dans une tribune publiée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et puis le président angolais João Lourenço a accueilli le premier ministre portugais António Costa à Luanda. À l'occasion de cette visite de 2 jours, plusieurs ministres des 2 gouvernements ont signé un total de 13 accords allant du financier au juridique. Le premier ministre portugais a annoncé une augmentation des investissements portugais en Angola afin d'accompagner le pays dans la diversification de son économie.
L'invité.
L'invité de ce journal est la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral. Nathalie Kambala parle de plusieurs boîtes à plaintes placées dans les lieux publics à Kananga, au Kasaï Central, pour dénoncer des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nathalie Kambala en parle dans cet entretien avec François Kadima.
Madame Nathalie Kambala, bonjour.
Bonjour.
Le FMDI a décidé de placer plusieurs boîtes de plaintes dans des lieux publics. Pourquoi ?
C'est un mécanisme de signalement de cas de violence sexuelle et celle basée sur le genre, parce que vous savez que c'est depuis longtemps que nous sommes dans cette lutte de réduire sensiblement ces cas de violence sexuelle et aussi voir dans quelle mesure il y aura des réponses de qualité. Mais on a compris que depuis qu'on est en train de nous battre, toutes les structures, les acteurs de lutte, pour appuyer les survivantes, le bénéficiaire, soit les victimes potentielles, on a compris que la dénonciation continue à poser des problèmes. Alors avec le BCNUDH, dans le projet d'appui ou d'accompagnement juridique et judiciaire, nous avons commencé par former les acteurs clés locaux sur les aspects de la protection des femmes et des filles dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et aussi leur montrer comment ils peuvent identifier le cas, les dénoncer, soit les orienter à des circuits de prise en charge, et aussi voir dans quelle mesure on peut mettre de stratégie avec les leaders communautaires pour qu'à leur niveau qu'ils prennent à bras le corps la protection de leur communauté, juste les réorientant à des instances de
prise. Mais la dénonciation pose problème à quel niveau ? Les gens ne veulent pas vous rapporter de cas. Qu'est-ce qui se passe réellement ?
Vous savez d'abord que la culture kassaïenne ici ne donne pas la possibilité à la femme mariée de dénoncer le cas. Même la fille qui est à la maison. L'effet déjà d'aller dénoncer comme ça un cas de violence sexuelle, donc pour la personne, elle se met en danger. L'entourage peut la stigmatiser ou la rejeter. Et aussi, c'est une façon de diminuer la chance de mariage pour les jeunes filles. Et pour les femmes mariées, c'est une façon de diminuer la chance de rester dans la vie conjugale. Alors, on a préféré d'abord de le faire anonymement pour recueillir un peu, parce que la dénonciation, elle est anonyme. On n'a pas besoin de savoir la personne qui dénonce, mais on a besoin de connaître la victime et aussi peut-être le bourreau et quel besoin qu'a la victime et comment on peut l'aider à aller prendre en charge, à l'orienter à des soucis de prise en charge. Voilà pourquoi on a mis et s'est rapproché aussi des communautés. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent loin de nos bureaux, loin des structures de prise en charge, loin de barreaux, loin de parquets, loin de police, loin des hôpitaux. Alors tout ça, c'est parmi aussi des barrières qui ne permettent pas aux femmes et aux jeunes filles d'aller dénoncer. Voilà pourquoi nous voulons nous rapprocher à nos communautés et aller installer ça dans les places publiques, surtout dans les cours royales, parce que la plupart des gens pensaient que mettre ça dans le cour royal, c'est vraiment un danger, parce que le chef ne voudront pas que les gens viennent accuser les autres membres de leur communauté. Par contre, cette fois-ci, c'est une façon d'impliquer le chef, de s'approprier la lutte, d'orienter, protéger leur communauté en les orientant à des structures de prise en charge.
Alors, comment ça va se passer dans les dénonciations ? Les gens vont déposer ces plaintes en gardant l'anonymat.
Nous avons mis les boîtes à plaintes. Ce sont des boîtes, des petites caissettes qui ont des cadenas. Mais au-dessus de la caissette, il y a un petit espace pour introduire une lettre. La lettre, elle est écrite dans toutes les langues nationales. Notre souci, c'est avoir l'information des personnes qui abusent des femmes et des filles et dans la personne qui a subi toutes ces atrocités pour la prendre en charge. Si c'est la victime elle-même qui veut mettre ses identités pour la prendre en charge, tant mieux, il n'y a pas de problème. Si c'est le parent de la survivante, si ce sont les membres de la famille qui veulent dénoncer, mais nous ici, par peur que la personne elle-même vienne dire que voilà, pour que je sois témoin, voilà, c'est moi qui ai dit, il y a ça, ça, ça. Nous voulons que les dénonciations peuvent être anonymes, mais les faits peuvent être réels avec les identités et les adresses exactes pour nous permettre la prise en charge.
Alors, ces dénonciations, c'est pour quels résultats ?
Nous, déjà, c'est une façon d'aider les survivantes à les prendre là où ils sont et les amener à des structures de prise en charge. Deuxièmement aussi, nous voulons aider ces survivantes-là pour comprendre les taux de recrudescence de cas de violences sexuelles dans nos communautés. parler. Parce que ça existe, mais c'est un peu vrac. Il y a des études, la dernière étude, c'était en 2021, qui a donné un peu des taux de cas de violence dans des zones de santé. Mais nous, nous voulons aller sur ces bases-là aujourd'hui pour nous rassurer où est-ce qu'il y a le danger.
Madame Nathalie Kambala, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral. Nathalie Kambala a été interrogée à Kananga par François Kadima. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.